Et Vincent Dessureau.
Le commentaire de
Danny Saint-Pierre, un chef pas comme les autres.
On retrouve Danny Saint-Pierre, animateur du balado L'Addition à Cube Radio. Salut Danny.
Salut.
On a un gros menu ensemble de trucs à discuter. Je veux commencer par, c'était pas dans les sujets prévus, mais ce matin j'ai vu, moi je suis tout cœur avec les restaurateurs, oui. Là, j'adore la restauration, mais ce matin ça m'a titillé un peu un topo que j'ai vu où des restaurateurs, je vais pas dire les restaurateurs, des restaurateurs disaient, mais là on nous a pas dit assez d'avance, comment vous voulez qu'on rouvre lundi, comment vous voulez qu'on rouvre aussi vite, mais on vous a pas dit d'ouvrir lundi, on vous a dit que la zone passe en zone orange. Il n'y a pas de pauvre. Ouvre quand tu peux, ouvre quand tu veux.
Ben oui, c'est pas un décret national de faire « Vous avez des restaurants, vous allez ouvrir! »
Non, c'est ça.
Immédiatement.
Mais est-ce que là, ça entre un petit peu dans ma tête, dans le chiolage. Il y a du chiolage tout à fait normal, puis je comprends, ils veulent que leur entreprise survive, mais ça, on vous a pas dit « Rouvrez lundi, là, vous rouvrez mercredi ou dans deux semaines, ça vous tente? »
Tu sais, on est une strate du monde des affaires qui a une voix qu'on entend beaucoup. Il va falloir faire attention à qui on donne un micro. Parce que ce micro-là, il est important. Il passe des messages, il suscite de l'intérêt puis de la sympathie auprès de la population. Mais là, on commence à avoir là une gang de chialeux. Puis, on peut réouvrir, là. Il y a des endroits qui peuvent réouvrir et recommencer. Ils doivent le faire à leur rythme. C'est pas une semaine de plus ou de moins qui va te donner grand-chose à la fin de ton année, parce que l'année est scrappée de toute façon. Fait que tu sais, si tu veux ouvrir vite, puis essayer de refaire tes sous d'une shot, c'est pas une semaine qui va changer grand-chose. Fait que moi, si j'avais un petit message à passer, c'est oui, on est tanné, on est frustré, on est écœuré, mais soyez conscient qu'à chaque fois qu'on vous met un micro d'en face, essayez de trouver une façon de connecter avec l'auditoire, puis qu'on garde cette oreille-là, qu'on garde cette sympathie. Puis qu'on arrête d'avoir l'air d'une gang de chialeux. On a le droit de chialer, c'est légitime de chialer. C'est tout à fait normal d'être découragé. Mais à un moment donné, un micro, c'est du pouvoir, puis il faut y faire attention.
Ça veut pas dire que c'est tous les restaurateurs qui ont la même opinion.
C'est pas homogène.
C'est ça, exactement.
Puis c'est souvent, on va à des... les médias vont donner un micro à quelqu'un qui va leur donner une clip.
C'est sûr.
Nouvelles, là, c'est vraiment pas excitant.
Ah, quelqu'un qui dit, tout est beau, on ouvre lundi.
Hey, ça va bien, je suis prêt, je t'ai organisé, mes clients m'attendent. Houhou, merci, monsieur Lego. Ben, ça marche pas, c'est pas une bonne clip.
Parlons d'ailleurs d'un autre chiolage qui est peut-être plus pertinent, là, la question de faire la police.
Ben, je trouvais ça pertinent, moi, ce qu'on se disait.
Ah oui, le débat est pertinent, mais le chiolage est peut-être plus pertinent dans le fait de dire, hey, moi, le faire la police en vérifiant des adresses. Est-ce que ça, c'est trop à demander?
Ben non, c'est pas trop à demander. Écoute, on retrouve le privilège d'ouvrir. Il vient avec son lot de difficultés. Il y a un paquet de gens qui vont choisir de ne pas le faire. Tu vois, Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, on refuse des clients des zones rouges quotidiennement. Il y a un risque à laisser rentrer ces gens-là. Il y a un risque quant à l'équilibre qui est en train de s'installer où on peut recommencer à pratiquer. Puis après ça, ben il y a un autre risque quant au fait que, ben Christy, si tu fais rentrer quelqu'un qui est de la zone rouge puis t'as pas checké son identification, puis on peut pas l'accepter, ben tu perds tes revenus d'une table. Donc, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui essaie de tricher, si on vous pogne puis vous aviez une réservation, ben vous avez volé la place de quelqu'un d'autre et volé les revenus de ce restaurateur-là par le fait même.
C'est vrai.
Ce sont des faits. Je pense que c'est pas un mot qui est trop fort.
Est-ce qu'il peut avoir un montant de carte de crédit? Si vous nous avez ça, on est obligé de vous expulser, ben ça vous coûte 75 chaque.
Ben ça, c'est un autre débat, ça, pendant longtemps, puis l'ARQ a travaillé là-dessus sur les no-shows. Vous savez, le fait que les gens se présentent pas parce que tu sais, c'est un billet de show, aller au restaurant, je veux pas, c'est un genre de spectacle où t'es assis, tu manges, t'achètes ton siège.
C'est pas vrai que tu peux toujours remplacer par des gens qui arrivent, là, des walk-in. Là.
Plus un restaurant a du succès, plus à un moment donné dans la tête du public, on se dit qu'il est tout le temps plein, puis on pense même plus à réserver.
Avec une table de 8 là, qui t'annule ça à 8h le soir, viens de perdre...
Une table de 8, c'est 800$.
C'est ça.
C'est beaucoup d'argent. Exemple, t'as une table de 8 dans un restaurant de 25 places. Tu le tournes deux fois. Ben, Christy, c'est quasiment 20% de ton chiffre d'affaires que tu perds dans ta soirée. Je veux pas, là. Quand tu choisis d'avoir un plus petit restaurant en plus, puis tu veux pas trop rusher tes clients, ben, ce 8-là, il est important. C'est une promesse qu'on se fait, là. Fait que nous, comme restaurateurs, on n'a pas le droit de préserver des montants sur une carte de crédit, à moins qu'on se fasse le concept d'un billet de show. Fait que si tu le convertis en billet, puis tu te dis, OK, bon, ben, nous, on vend des billets pour ce seating-là, tout le monde arrive en même temps, tout le monde s'en va en même temps, tu peux le faire. Mais par contre, tu te frottes à une clientèle qui va vraiment être en beau fusil puis qui va te détruire sur toutes les plateformes nécessaires parce qu'il n'y a aucune police quant à ça. Aller sur Google, t'es jamais venu chez nous puis dire que t'as trouvé une souris vivante dans ton assiette puis il n'y a personne qui va remettre ça en question. Là. Écoute, moi, je chiale pas. Je vous dis que ça existe. Pis si on revenait à la base, c'est... Pensez à vos restaurateurs. Là. On peut recommencer à aller au resto. Ben, essayez de faire ce que doit dans les règles de l'art.
Je veux, on pourrait parler du prochain sujet pendant une heure parce que je le trouve tellement intéressant.
Ben oui.
Et c'est même, je sais pas si c'est dangereux là ou c'est un terrain glissant. Mais
pourquoi penses-tu qu'on va se faire attaquer par les woke de la table?
C'est possible.
Ben oui.
C'est possible.
Où sont-ils?
Bon, on va le faire parce que j'avais une discussion l'autre fois avec un ami mexicain.
Ok.
Ok. Qui me disait, ben tu sais, la nourriture mexicaine c'est la meilleure bouffe au monde. Puis je disais, ben moi j'adore la nourriture mexicaine, c'est mes cuisines préférées, mais je dis c'est pas la meilleure au monde là, je dis la cuisine française c'est un peu la sommité, la cuisine japonaise, il y en a plein, mais là je te demandais à Danny de se mouiller à savoir la meilleure culture culinaire ou la meilleure cuisine, le pays qui fait la meilleure bouffe là. Est-ce qu'on peut mettre un top là-dessus?
Je le sais. Cherche le trouble.
Mais dans ma tête, il y a quand même une évidence qui est la cuisine française.
Oui.
La cuisine, c'est tellement élaboré, tellement d'angle, de la pâtisserie, de la boucherie.
Il y a du raffinement.
Il y a du raffinement, il y a des techniques. C'est très varié. Est-ce que ça prend pas la pôle automatiquement?
Ben, pas nécessairement. Tu vois, la France, là, elle est victime de son succès de réputation gastronomique depuis une bonne vingtaine d'années. Parce que tout le monde s'imagine que c'est une cuisine lourde, empoulée, mais en même temps, de toutes petites portions. Essaie de parler de cuisine française à tes parents ou à mes parents pour le fun. Ils font dire, ben là, Christy, tu t'en vas au restaurant, t'as deux petits points de carottes puis un petit bout de viande avec de la sauce qui sèche.
Petit bout de blanquette.
C'est ça, cette affaire-là. Puis ça, c'est dû à la nouvelle cuisine française. À la fin, au milieu des années 70, des jeunes cuisiniers qui sont maintenant tous morts parce qu'ils sont vraiment très vieux et tous passés, ont raffiné la nouvelle cuisine. On raffiné la cuisine de l'époque. On passe à Paul Bocuse, aux frères Trois-Gros. Ils ont raffiné ce système-là. Ils ont allégé la cuisine. Ils ont concentré les saveurs. Puis, ils ont fait quelque chose de cohérent. Mais quand tu transposes cette façon-là de manger dans un autre marché, exemple ici, où on est habitué de manger des plus grosses assiettes, ou tu sais, on passe aux États-Unis, admettons, là. Ben, c'est sûr qu'il y a plusieurs barrages culturels qui s'installent. Ceci dit, dans les techniques, la plupart des grandes civilisations du monde peuvent se comparer. On pense pas souvent à la cuisine chinoise comme étant la cuisine la plus complexe du monde. Quant à mon avis, c'est celle-là où il y a le plus d'ingrédients qu'on connaît très très peu, où il y a beaucoup 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 de petits détails qui se succèdent. Puis
c'est technique compliquée que nous qu'on n'imagine même pas. Là.
On peut même pas traduire. Puis tu sais, admettons ici, quand on parle en salle occident, quand on veut créer de la saveur, on va saisir les choses, on va caraméliser. On parle de la réaction de Maillard. Fait qu'un exemple, on va saisir un steak dans une poêle pour que ce soit bien croûté puis croustillant. Mais tu sais, quand tu regardes dans la cuisine chinoise, oui, il y a des sautés et des saisies, mais il y a beaucoup de vapeur, il y a beaucoup de cuisson au bouillon, il y a beaucoup de textures qui sont collagéneuses,
oui,
cartilagineuses.
La variété de textures, ils vont plus loin, que le spectre est plus large. Là.
Ben oui, puis on va manger l'entièreté de l'animal, fait que tu sais, il sera pas étonnant de retrouver des concombres de mer ou de l'estomac de bœuf. Puis chez nous, on va faire comme urgh! Puis après ça, ben on va se retrouver à comparer ça puis faire de l'anthropomorphisme en se disant, ben manger un bras, une jambe correcte ou un bout de dos, mais manger un estomac, ça marche pas. Fait que, tu sais, c'est un drôle de comparable à essayer de faire. Moi, je te dirais que je préfère la cuisine italienne.
C'est quand même un autre géant, mais c'est parce que là, plusieurs vont dire ça. Moi, c'est la cuisine italienne, mais souvent en Italie, là, tu sais, c'est pâtes, pizza.
Mais attends, c'est des départements, c'est comme en France. Hey,
des polpettes.
L'Hexagone, c'est gros, là, puis l'Italie aussi. Quand tu manges dans le nord de l'Italie, là, par exemple, si tu t'en vas à Bologne, ben, tu mangeras pas la même chose que si tu t'en vas à Palerme. Tu sais, plus tu es au nord en Italie, plus c'est le beurre et la crème et le fromage, puis ça ressemble pas mal plus à une espèce de gros party de la Savoie, tu sais. On va manger des patates, on va manger de la polenta, il va avoir un grand raffinement au niveau de la petite volaille, il va avoir des pâtes, mais plus faites à l'œuf, des pâtes qui vont être farcies, le ragoût bolognaise vient de là, tu sais, qui est notre sauce à spaghette. Puis quand tu vas dans le sud, là, ben, t'as des influences du Maghreb qui traversent, c'est un climat qui est hyper chaud, on est plus dans le légume, dans l'huile d'olive, dans le poisson qui est huileux. Puis quand on dit cuisine italienne, ben c'est comme s'il fallait tenir compte de tout ça. C'est vaste, là.
Un mot sur je parlais de la cuisine mexicaine,
oui,
que j'adore. Là. C'est vraiment une de mes préférées. Mais tu sais, on se dit tacos, tortillas, enchiladas, et à un moment donné, on a fait le tour, là.
Ben, rapidement. Oui, on a fait
Est-ce que c'est juste qu'on connaît de la cuisine mexicaine?
Ben oui. C'est ça. Tu sais, notre diaspora mexicaine, ou même d'Amérique du Sud ici, est jamais aussi grande que celle des États-Unis. Puis la plupart de la cuisine qu'on nous représente comme étant mexicaine ici, c'est du Tex-Mex. Puis bien souvent, tu vas traverser de l'autre côté, puis tu verras jamais ça.
Tout à fait. Ben, les tacos, c'est très différent de... Je veux dire, les tacos vraiment mexicains, souvent, ben c'est très dépouillé. Des oignons marinés, du porc, et il y aura pas...
Si on pense à nos tacos à nous, là, dans le hard shell, là, les Old El Paso, là.
Oui.
Hey, ça n'a rien à voir avec ce que tu traverses en bas. Tu sais, exemple, on a la chance de voir beaucoup, beaucoup de food trucks sur Instagram là, qui font des trucs comme du birria, qui est, exemple, des tacos qui sont juste avec un tortilla de maïs. Fait que ça, c'est un tortilla qui est plus petit, qui est épais, fait avec de la farine de maïs, mais souple, fait sur la plaque, un peu comme une crêpe. Puis après ça, ils vont mettre du gras de bœuf braisé à la tomate là-dessus. Puis après ça, une belle viande bien fondante avec un petit shooter de la sauce à côté. Puis ça va être pas mal ça. Il y a la culture des épices aussi, les piments, le séchage des piments. Il y a la culture des mayas, il y a la culture des incas qui se mélangent au travers de ça, puis eux ont vraiment embrassé la cuisine autochtone.
Ben, comme on a vu un virage, les tortillas de maïs là, qui étaient introuvables avant et très récemment. Tout à fait. Maintenant, il fallait trouver ça dans quelques boutiques spécialisées. Maintenant, en épicerie, il y en a.
Oui.
Et pour retrouver ce goût, je sais qu'il y a une façon de les faire là, vraiment avec le maïs lessivé, là, une technique même.
Oui, avec
la cendre, qui est vraiment pas accessible, mais tortilla de maïs, c'est beaucoup plus ce qu'on retrouve comme goût au Mexique ici avec notre farine.
Parce qu'on est dit, ici, là, ce qu'on prend pour faire des wraps, admettons. Tu sais, le bon vieux wrap que tu trouves au Café Dépôt, là, en bas de ta tour à bureau quand t'allais travailler au bureau,
oui,
là.
Oui.
Ben, ça, c'est un truc. Il existe. On va l'utiliser pour faire certaines affaires, dont des enchiladas, qui sont l'équivalent du cannelloni mexicain, là, tu sais. On parle d'un tube qui emballe la viande braisée avec plusieurs sauces. Mais ce sont des véhicules pour exprimer quelque chose. Au même titre que les pâtes, tu sais, on disait, je vais manger des pâtes, ça va être plate. Mais quand tu regardes l'apanage des pâtes à l'italienne, ben, dans chacune des régions, il y a des spécialités, il y a des formes, il y a des matériaux de base qui vont changer, des textures de sauce qui vont être tout à fait conséquentes. Puis dans chacun des départements du Mexique, t'as ça.
Ben, je pensais, mon père qui adore le Mexique, c'est tentait la sauce mole, là.
Ah oui, c'est compliqué, la mole.
Écoute, ça y a pris 2 jours, c'était très bon, mais ça y a pris, on se rend compte qu'on a l'impression que c'est assez simple, la cuisine mexicaine. Il y a des volets qui sont très, très complexes. Pis, je pense qu'il y avait 60 ingrédients là-dedans.
Puis ils ont du temps. Tu sais, souvenons-nous à l'époque, là, quand nos familles avaient 12 enfants, puis on avait l'hiver, on vivait au rythme de la lumière du jour, t'avais une épaule de bœuf à passer, tu savais quoi faire avec, ça prenait du temps, mais tu l'avais ce temps-là, t'avais des mains autour de toi pour le faire. T'sais, je pense qu'on ne se souvient pas à quel point avoir du temps, ben ça peut permettre de faire des choses. Puis je pense qu'avec la pandémie qu'on vit, puis le fait qu'on a été confinés un petit peu plus longtemps, ben là, on peut s'aventurer dans des trucs qui sont comme ça.
Pas le choix de faire une parenthèse sur le Japon.
Oui.
Autre cuisine
toi,
que
le Japon.
J'adore, mais au Japon, sur place, tous les coins de rue, c'est sushi, ramen, sushi, ramen, sushi. Évidemment, ça va beaucoup plus largement. Mais c'est comme si ici, à Montréal, tout ce qu'il y avait, c'était poutine, pâté à viande.
Oui.
Et ils ont quand même, oui, c'est plus large, mais à un moment donné, tu réduis quand même les habitudes, pas mal plus que la cuisine française.
Mais c'est une cuisine qui est très traditionnelle aussi. Tu vois, moi, je suis très ami avec Antonio Park, qui est un ami qui est de Restaurant Park ici, qui a fait son apprentissage au Japon. Puis, il a passé 2 ans juste à cuire du riz, tu sais. Puis là, à comprendre chacune des nuances du grain de riz puis la provenance.
Et ça, respect là-dessus que nous, on n'a pas. Là. On peut pas passer, nous, à manipuler un couteau pendant 4 ans avant de pouvoir couper quelque chose. Là.
Ouais, puis il y a des chefs là, qui ne font que du tempura. Vous savez, la belle friture.
Oui.
Puis tu dis, ben là, Christine, nous autres, on a des chefs de pogo. Là. Non, c'est pas la même affaire, buddy. Tu sais, de cuire chacun des ingrédients, de sublimer chacune des techniques, d'être patient, c'est presque un méditatif. Il y a, chaque culture a son moment, a sa façon d'aborder les choses pour créer de la valeur aussi.
Mais ça montre comment se rappelant tout ça à quel point vous avez un beau terrain de jeu.
Ben
pour
oui.
ça, faut pas. Tu sais, je sais qu'il y a des restaurants qui sont fait critiquer en disant mais vous faites telle cuisine, puis vous êtes pas de cette origine-là. J'espère qu'on n'embarquera pas là-dedans. Puis vous allez pouvoir vous amuser quand même toujours.
Ben je pense qu'on peut toujours s'amuser, mais il s'agit par exemple d'avoir le petit mode d'emploi de la woke-itude, puis
oui.
c'est de faire comme admettons t'es pas coréen, ben essaye pas d'utiliser les symboles d'une autre culture pour dire que tu vas jouer au coréen. Tu sais, c'est comme l'équivalent du blackface en cuisine. Tu commences pas à te déguiser avec un blackface place pour le fun puis dire ah c'est drôle. On s'entend tous que ça. Ben oui, tu peux t'inspirer. Ouais. Tu peux t'en inspirer, mais tant que tu ne te targues pas d'être le truc original ou tu te mets pas dans le chemin de gens qui veulent le faire pour vrai. Fait que c'est glissant, mais c'est de plus en plus simple à comprendre.
Oui, et je pense que la prochaine fois qu'on se parlait d'autres, parce que j'en ai la cuisine indienne, marocaine, l'Espagne, on peut s'amuser. Un peu moins l'Allemagne, où je serais tout le temps de mes amis, parce que tout a l'air brun, puis dans de la grosseté.
Ouais, ben, brun et biéreux.
Brun et biéreux, mais ça marche en hiver. Merci, Danny.
Merci, salut.
On revient.